Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. Ce livre est une trace, une archive, une pièce du puzzle que je tente de compléter grâce à l'analyse politique de ce qui m'arrive. Une poupée en chocolat est un récit à la fois intime et politique de la vie d'Amandine Gay, née sous X en France, adoptée par une famille blanche à la campagne. C'est l'histoire d'une construction, d'une femme noire, d'une femme féministe engagée pour la reconnaissance des droits des adoptés. Un très gros programme et une conversation passionnante. Vous êtes prêts? C'est parti. La Franchie Podcast, la librairie chez vous. Donc aujourd'hui, ce soir, nous sommes particulièrement ravis de te recevoir, Amandine Gay, bienvenue.
Merci.
Donc nous te recevons à l'occasion de la parution de ton livre, Une poupée en chocolat aux éditions de La Découverte. Je suis ravie de voir que de nombreuses librairies, et c'est exactement ce que j'ai dit en t'accueillant, te recevaient. Parce que je trouve que ça doit être hyper émouvant, en fait, hyper beau de faire tout ce travail de diffusion. Ça doit être hyper fatigant, donc bravo. Ça doit en effet nécessiter beaucoup d'énergie.
Un petit peu, mais effectivement, c'est mieux d'écrire un livre que les gens ont envie de lire, ou au moins les libraires ont envie de défendre, que de devoir rester chez soi. Donc je suis très contente. Je suis fatiguée, mais je suis contente.
Comme ça, c'est indéniable, c'est mieux. Ce livre, donc moi je le découvre après t'avoir suivi en tant que réalisatrice, ces deux films documentaires, Ouvrir la voie et Une histoire à soi. C'est d'ailleurs grâce à Une histoire à soi que j'ai pu te rencontrer rapidement au Métropole et te dire, est-ce que vous pouvez finir la franchise? Oui, oui, bon allez, c'est parti. Et donc merci encore pour ça. Il est indéniable en fait que tout ton travail tourne autour de ce que tu défends beaucoup dans les premiers chapitres de ton livre, l'intime et le politique. Donc ce moment de jonction, en fait, où sa vie devient son engagement et où c'est indémêlable, en fait, où tu vas en sortir, c'est quelque chose d'assez viscéral, j'ai quand même l'impression. En fait, je suis assez intéressée de savoir quand est-ce que vraiment tu as nommé, en fait, cet engagement, cette envie de mêler intime et politique. Est-ce qu'il y a eu un moment un peu épiphanie de dire « non mais c'est ça, en fait, que je vais faire » ou est-ce que ça a vraiment été une continuité de toute ta vie qui maintenant, avec le recul que t'as permis l'écriture du livre, se dit non, mais en fait, c'est depuis vraiment très longtemps que ça s'est passé.
Non, c'est depuis vraiment très longtemps. Je pense qu'effectivement, j'ai pas un moment où je me suis dit, ah oui, l'intime, le politique, ça, c'est the way to go. Mais, c'est vrai que même, par exemple, souvent, on me demande quand est-ce qu'est né mon engagement ou, et moi, j'ai pas vraiment de souvenirs parce qu'en fait, aussi loin que je me souvienne, il y a quand même eu une tradition dans ma famille qui était que, on prend position, on va en manif, on donne son avis. Moi, j'ai effectivement aussi grandi avec une mère qui était beaucoup, voilà, dans le renforcement positif et dans l'idée que je pouvais tout faire. C'est parce que j'étais une fille que je pouvais pas faire, etc. Puis elle était syndiquée, donc voilà, moi j'ai été en manif en poussette. J'ai une tante qui, à l'époque où il y avait toutes les histoires du Crédit Lyonnais, un jour, voilà, ça c'était un de mes grands moments, parce que moi j'ai toujours aimé la télé en plus. Et donc un jour, ma tante Christine est passée sur un piquet de grève à la télé, et donc j'étais genre, ah, il y a Christine et tout. Puis elle... donc je sais pas, je pense qu'il y a vraiment eu un nombre d'étapes comme ça où c'était un peu, je sais pas, comme la base, quoi, où c'est comme ça que ça se passe. Si t'as un avis, si t'es pas d'accord, tu t'engages, tu te syndiques, tu donnes ton avis. Et donc moi je sais que par exemple, voilà, j'ai été déléguée de classe de la 6e à deuxième année à Sciences Po, où j'étais dans le bureau des élèves. Enfin, je veux dire, il y a eu vraiment quelque chose comme ça de très là où je suis, je m'engage, quoi. Voilà. Je sais pas, c'est un peu comme si c'était comme ça que ça se passe et que j'étais plutôt étonnée que tout le monde le fasse pas. Enfin, moi, je me dis, ben voilà, si on s'engage pas, en fait, voilà, si tu t'occupes pas de politique, la politique s'occupe de toi, quoi. Ouais. Donc, du coup, faut y aller. Donc, c'est vrai que oui, non, je veux dire, de déléguée de classe à après, donc j'ai été aussi au sein d'Oser le féminisme, etc. Et je dirais qu'en plus, moi, ce que j'ai aimé, mais je pense que ça vient aussi du sport collectif. Et voilà, j'en parle un peu aussi dans le livre. Parce qu'effectivement, je pense que voilà, moi, je me suis sentie très isolée, surtout peut-être plutôt petite enfant. Donc effectivement, quand j'ai changé d'école à 5 ans et que le premier jour, on m'a dit je te donne pas la main, t'es noire, et dans les minutes heures qui ont suivi, on m'a dit Lou, ta vraie maman, et pourquoi ta mère elle est blanche, et donc là tout ce truc a commencé. Donc j'étais vraiment très différente. Il y avait apparemment personne d'autre comme moi dans les parages. Et donc c'est vrai que moi j'ai aussi toujours cherché du collectif. Je pense déjà pour me sentir moins seule, et puis aussi pour essayer de voir s'il y avait quand même des gens qui me ressemblaient. Enfin, c'était aussi un peu ça ma quête, c'était de me dire, mais enfin, vraiment, est-ce qu'il y en a qu'une comme moi, ou est-ce qu'il y en a d'autres? Je sais pas, la jonction s'est faite dans ma tête qu'il pouvait pas y avoir que moi, et que ce qui m'arrivait pouvait pas m'être arrivé que à moi, et donc il fallait que je trouve, quoi. Il fallait que je trouve les gens à qui c'était arrivé, ou les traces de phénomènes qui ressemblaient. Donc je dirais que ça a été un peu par étapes où... effectivement, moi, j'ai découvert la sociologie à l'époque. Il y avait le bac sciences économiques et sociales. Donc, voilà, je crois que c'était en première ou en terminale qu'on commençait la socio. Et voilà, moi, ça a vraiment changé ma vie. Et je pense aussi, justement, encore une fois, dans cette perspective, t'es pas juste un individu, quoi. T'es un individu dans une société. Et donc, en fait, t'es aussi déterminé par les structures. Alors, effectivement, la sociologie, puis le matérialisme, hein, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a des courants de la sociologie qui sont beaucoup plus basés sur l'individualisme. Mais moi, effectivement, ceux qui m'ont parlé, c'était ceux qui permettaient de se replacer dans la société, quoi. De se dire, OK, bah, effectivement, en fait, le capitalisme, alors ça s'appelait pas comme ça à l'époque parce que c'était apparemment un sujet, mais la suprématie blanche, le patriarcat, etc. explique un certain nombre de choses qui m'arrivent, peuvent expliquer, voilà, pourquoi à un moment donné je me retrouve effectivement dans une famille blanche à la campagne lyonnaise, explique la première chose, par exemple, c'est comprendre que tout se réduit pas à l'individu. Moi, je me rappelle le premier cours de sociologie, pour nous expliquer un peu comment, voilà, ça fonctionne, le prof nous parle de Bourdieu et nous parle de l'étude sur les héritiers et donc sur la proportion et les statistiques qui existent encore, hein, sur la proportion d'élèves, d'enfants d'ouvriers qui deviennent, qui sortent de leur classe sociale et puis ou alors qui sortent des métiers de leurs parents, quoi. Et du coup, moi, la première réaction, c'était de lever la main et de dire « Oui, mais moi, ma mère, son père était ouvrier et puis elle est devenue institutrice, alors comme quoi on n'est pas condamné, c'est pas parce qu'on est enfant d'ouvrier, etc. » Bon, j'écoutais pas vraiment j'avais pris le cours, voilà, d'un point de vue complètement personnel, alors que c'était pas le sujet. Et en fait, il m'avait dit « Oui, mais en fait, ça vient pas contredire un fait social. » Bien entendu, il va toujours y avoir des personnes qui ont un père ouvrier et puis qui peuvent devenir institutrices, mais en fait, si l'immense majorité des enfants d'ouvriers restent ouvriers, ça dit quelque chose à la société et qu'il y a des mécanismes de domination et tout. Et ça, voilà, moi, à partir de là, je me suis dit genre « Ah ouais, ça marche pour à peu près tous les sujets, en fait. » Et après, c'est juste que ça s'est affiné. Et parce que voilà, j'avais besoin de comprendre des choses par rapport à ma propre histoire, donc j'ai choisi de faire mon mémoire de fin d'études à Sciences Po sur les enjeux du traitement de la question coloniale, parce que ce qui m'occupait beaucoup dans cette phase de ma vie, c'était effectivement de comprendre d'où venaient ces représentations sur les Noirs et les femmes noires en particulier. Voilà ce que j'ai souvent dit pour ouvrir la voie aussi. S'il y a un gars qui vient te voir en disant « Ah ouais, vous les Noirs, vous êtes trop chaudes, vous êtes panthères, vous êtes félines », tu te dis « Bon, le mec, c'est un boulet ». Mais tu sais, si ça t'est arrivé un certain nombre de fois dans ta vie, tu te dis « Il y a une école où on les a tous assis ». En leur disant, quand tu croises une nana noire, dis-lui, féline, panthère et tout. Il n'y a pas d'école. Donc, où est-ce qu'ils l'ont chopé, ça? D'où est-ce que ça vient, cette vision spécifique? C'est sûr, il y a un héritage. Donc, c'est quoi le continuum colonial? Comment on explique ça? Comment on explique qu'aujourd'hui, il va y avoir certaines phrases qui sont dites à certaines personnes? Et en fait, elles ont toute une histoire. Il y a les cartes postales, etc., coloniales, toute l'exotisation, voilà. Pour moi, à partir du moment où j'ai compris qu'on pouvait tisser des fils, et que donc, du coup, je me dis juste, bon, ça me plaît pas, je le vis comme une agression, mais je le vis surtout en me disant, genre, oh là là, toi, là, tu es agi par quelque chose qui te dépasse. Tu comprends pas ce qui se passe, en fait. Tu dis des choses, tu sais pas d'où elles te viennent, etc. Et moi, j'essaye de pas être agi. Parfois, j'ai quand même des réflexes de dire des choses un peu bêtes, etc. Mais dans la grosse majorité des cas, moi, j'essaye de comprendre d'où me viennent mes représentations, si ce sont vraiment les miennes, ou si c'est quelque chose qui me vient de la société, est-ce que je suis d'accord? Et si je suis pas d'accord, comment est-ce que je peux faire en sorte qu'on change cette représentation, etc.
Par rapport au documentaire, on voit bien qu'il y a eu la première étape avec Ouvrir la voie, que de mettre vraiment en lumière les femmes noires, les portraits de femmes noires de différents horizons, de faire faire entendre en fait une parole qui était trop peu transmise, bon, quasiment invisible, surtout à cette époque-là. Puis ensuite, avec une histoire à soi beaucoup plus récente, la parole des adoptés internationaux. Et maintenant, avec ce livre, c'est vraiment te dire comment tu te situes, toi, par rapport à ce travail, par rapport à ta vie, et un mélange assez dense, mais en fait très, très, très serré, en fait, de comment tu as évolué, comment tu t'es construite, comment tes engagements sont venus se mêler, comment ton travail, en fait, est venu aussi faire du pas à pas avec comment tu t'es construite et comment tes engagements sont arrivés, pour arriver à ce livre. J'ai été assez impressionnée par la montagne de savoir et de transmission de ce que tu nous offres, en fait, dans ton écriture. Parce que certes, on a ton histoire personnelle, mais il y a aussi un magnifique boulot de rendre visibles les penseuses, quelques penseurs, des différents endroits de tes réflexions. Et ça, je trouve que dans les féminismes, puisque pour moi, évidemment, ton livre est excessivement féministe, très engagé, c'est de toujours savoir qu'on ne vient pas de nulle part, que les penseuses et penseurs qui nous ont précédés ont transmis aussi des choses, et que on voit bien que tu t'es beaucoup nourrie de lectures d'acro-féministes ou de personnes engagées anglophones. Donc tout le travail de recherche que tu as indiqué en fait dans ton livre, c'est quelque chose qui t'a demandé de revenir en arrière sur toutes tes lectures, ou ça a été particulièrement en fait un moment d'étude pour le livre?
Non, alors, c'est plutôt, effectivement, le livre, c'est vraiment comme une synthèse. Et je pense qu'il y a deux volets. Il y a un volet aussi, en particulier, par rapport à une histoire à soi qui, effectivement, aborde uniquement l'adoption internationale, et puis moi, je suis née sous X. Mais c'est aussi, c'est particulier quand vous faites un film, même si, bien entendu, c'est principalement mon avis sur les sujets, mais en fait, le film, c'est quand même un moment de rencontre avec d'autres personnes. Et donc, l'enjeu, c'est aussi de respecter leur récit de vie, leur parcours, leur point de vue. Donc, par exemple, il y a des choses avec lesquelles, enfin, moi, par exemple, je viens plutôt d'une tradition, matérialiste, anarchiste. Moi, vraiment, la religion, c'est pas mon truc. Mais à un moment donné, ça me semble important d'ouvrir la voie. La religion, c'est un élément important dans les communautés noires. C'est quelque chose qui fait partie de la vie de plein de personnes noires. C'est parce que moi, je suis agnostique, que je vais pas en parler dans le film, parce que, moi, ma vision, c'est ni Dieu ni maître, etc. Bon, chacun son truc, en fait. Et c'est un peu pareil pour une histoire à soi. Là, en plus, on est vraiment sur des récits de vie, sur des portraits. Donc, en plus, il y a vraiment la question de faire attention aux personnes qui sont dans le film et pas les tirer, parce que tout le monde n'est pas du tout au même degré de politisation, même vis-à-vis de la pratique de l'adoption dans nos participantes. Et donc, il y a vraiment cette idée de, d'être fidèle à la rencontre qu'on a faite, d'être fidèle à ce que les personnes nous ont raconté. Et donc, c'est vrai que pour moi, le livre, c'est aussi un endroit de liberté, parce qu'en fait, là, je m'exprime en mon nom propre. Donc, je peux dire ce que moi, je pense, juste moi toute seule, et surtout, ça n'engage personne d'autre. Ça met pas en danger les autres, c'est la seule, que ça met éventuellement en danger, c'est moi, mais là-dessus, il n'y a pas de... Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose aussi où, effectivement, c'est un espace qui est vraiment différent, et qui est aussi différent parce que, venant de la recherche, dans le monde universitaire, même si dans le monde anglo-saxon, c'est autorisé d'écrire aux jeunes, ce qui a déjà été un grand plaisir pour ma deuxième maîtrise en sociologie, puisque le premier travail, donc la maîtrise, le master à l'IEP, il est écrit au nous encore. Parce que bon, c'était, attention, j'ai 37 ans maintenant, et j'ai écrit quand j'avais 21 ans, donc ça commence à dater un peu. Et donc c'est clair qu'à 15-16 ans en France, surtout à Sciences Po, on n'écrivait pas un mémoire de fin d'études au jeu. Déjà, quand on avait choisi le traitement de la question coloniale, fallait pas non plus aller trop loin. Et donc c'est vrai que il y a aussi toute cette question de pouvoir explorer une forme qui n'est ni complètement académique, ni complètement juste de l'essai ou du récit de vie, etc. Et puis pour le fond, c'est plutôt la synthèse d'années de recherche. Donc j'ai pas fait beaucoup de lectures nouvelles, par exemple pour celui-ci, j'en ai fait un petit peu, mais pas beaucoup. C'est vraiment des choses qui viennent depuis Sciences Po jusqu'à aujourd'hui, avec les deux films au milieu. Parce que les deux films, c'est aussi ouvrir la voie. Moi, j'ai fait 45 pré-entretiens, puis on a enregistré ensuite 24 personnes. Une histoire à soi, on a fait 93 pré-entretiens. Et sachant qu'aussi pour mon mémoire en sociologie, donc là qui était sur la mobilisation politique des adoptés transnationaux et transraciaux en France et au Québec, du groupe affinitaire au groupe de plaidoirie. Donc là, on était vraiment sur un mémoire en sociologie des mouvements sociaux et en gros, pourquoi les adoptés se regroupent? Pourquoi est-ce que ça reste pas des groupes affinitaires, donc juste des groupes, un groupe de parole, le fait qu'on a envie de se rencontrer avec des gens qui nous ressemblent? Et pourquoi à un moment donné, ça devient un groupe de plaidoirie, donc vraiment qui vont voir les institutions et qui ont des demandes spécifiques pour modifier les lois d'adoption, etc. Et donc là, ce moment-là aussi, j'avais une partie qui était un peu un terrain. Donc j'avais aussi là interviewé à peu près une vingtaine d'adoptés entre la France et le Québec. Donc c'est vrai que ça aussi c'est beaucoup dans le livre je parle de la question des filiations. C'est pour ça aussi que j'essaie de citer des podcasts, des conversations même. C'est-à-dire que effectivement ça c'est vraiment oui une synthèse de près d'une bonne quinzaine d'années là de réflexion, militance, création qui peuvent aboutir là-dedans. Et je trouve que c'est important de mettre les références même quand elles sont en anglais. Parce que justement, ça montre, enfin, pour moi, c'était aussi important de produire un livre en français pour montrer à quel point il nous manque des ressources, il nous manque les concepts, il nous manque effectivement les références. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on peut penser des situations spécifiques quand on n'a même pas les termes pour les décrire? Et donc, ça, pour moi, effectivement, bah, quand j'ai découvert la notion de fardeau narratif, donc, en gros, bah, le fait que quand on est une personne adoptée, on nous demande toujours de raconter notre vie dès le plus jeune âge, dans des contextes où on n'a pas envie de le faire, en public, etc. Ben moi, j'étais contente qu'il y ait une notion qui décrive ce que moi, effectivement, j'ai vécu à partir de 5 ans, qu'on m'a dit « Mais elle est où ta mère? Tu sais pourquoi t'as été adoptée ?» Et tout. Toi, t'es là, tu sais pas quoi répondre. Et voilà, qu'il s'agisse de justice reproductive, de fardeau narratif, de socialisation raciale, etc. Avoir des termes clairs qui permettent de dire rapidement « Ben oui, en fait, quand vous grandissez noir, dans une famille noire, dans les communautés noires, il y a un ensemble d'apprentissages implicites que vous faites pour apprendre à vous défendre de la suprématie blanche, si vous grandissez en contexte minoritaire. Et ces apprentissages implicites, vous pouvez pas les faire dans une famille blanche. La socialisation raciale, c'est ça. C'est comme la socialisation, c'est les apprentissages implicites bah, qui font que vous savez qu'il faut regarder à gauche quand vous traversez la rue en France et que vous risquez de mourir écrasé, parce que je reviens de Londres, là. Donc, dès que vous changez de pays, parce qu'en fait, vous avez été socialisé avec les voitures qui roulent à droite. Et donc, du coup, bah, voilà, toutes ces choses-là que vous remarquez même plus que vous faites, bah, elles s'appliquent aussi aux questions raciales. Et donc, du coup, bah, c'est important aussi de dire, c'est pas juste un débat de est-ce que les Noirs peuvent adopter des Blancs, etc. L'enjeu, encore une fois, il est social, il est politique. Ça a des conséquences. Toutes les familles noires savent que le profilage racial existe et vont développer des stratégies pour préparer leurs garçons à ce passage à l'adolescence où ils vont commencer à être contrôlés par la police, etc. La plupart des familles blanches ne le savent pas. Quand on place des enfants noirs dans une famille blanche, par exemple des garçons, il va y avoir un problème à l'adolescence où les familles vont pas être en mesure de bien les accompagner parce qu'elles n'ont pas été formées, dans la grande majorité des cas, sur cette question-là. Et donc pour moi, l'enjeu, c'est vraiment ça aussi, c'est que plutôt que d'être dans des débats théoriques, et donc on en revient à la question aussi de l'intime, du privé politique, etc., c'est de montrer comment ça s'incarne dans la vie des gens. Moi, en fait, ça m'intéresse pas de savoir est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à révéler voilà, les structures de pouvoir, les rapports de domination qui font qu'effectivement, ça peut être dangereux de placer des enfants noirs dans des familles blanches s'il n'y a eu aucune pédagogie, aucune formation des parents blancs à l'accueil d'enfants noirs qui vont faire l'objet de racisme et d'un ensemble de discriminations depuis l'école, avec des statistiques qui nous manquent, donc autre argument fait dans le livre, comme on n'a pas de statistiques ethniques, on n'est pas en mesure de déterminer en France s'il se passe la même chose que ce qui se passe en Grande-Bretagne, au Canada et aux États-Unis. Donc il y a quand même des fortes chances, étant des sociétés traversées par des histoires coloniales et des héritages de l'histoire de l'esclavage, il y a de fortes chances que ces choses-là existent aussi. On se rend compte que, par exemple, les petites filles noires sont beaucoup plus punies de façon beaucoup plus systématique, avec des punitions plus graves, dès l'école maternelle, dans les quatre pays que j'ai cités. Est-ce que c'est la même chose en France ? Ce serait quand même intéressant de le savoir, parce que justement, il n'y a pas, dans les discriminations, dans le racisme systémique, il n'y a pas que les violences policières. Il y a le racisme médical, il y a la discrimination à l'orientation scolaire, mais il y a même effectivement la surpunition des petites filles noires dès l'école, etc. Donc tous ces enjeux-là, pour moi, ils méritent d'être étudiés. On ne peut pas déconstruire, on ne peut pas mettre fin à des pratiques discriminatoires, violentes, si on n'est même pas en mesure de les identifier. Et dans le cas des personnes adoptées, il y a énormément de choses qui viennent perturber nos vies, qui sont liées au système de domination. Et au lieu d'adresser ça, pendant très longtemps, on s'est réduit à un discours, mais qui était aussi un discours du point de vue des adultes, qui était celui, effectivement, des troubles de l'attachement, du trauma, de l'abandon, etc., qui sont aussi des sujets qui traversent la vie des personnes adoptées. Mais il n'y a pas que ça. Et moi, voilà, si je prends mon exemple, et donc c'est pour ça que c'était bien pour moi de pouvoir parler en mon nom propre, ça n'a pas été ça, mon problème dans la vie. Mon problème dans la vie, ça a été le racisme, ça a été l'opacité sur mes origines, ça a été la non-possibilité d'avoir accès à mes antécédents médicaux, etc. Ça a été des vrais enjeux concrets dans ma vie, y compris en termes de soins, y compris passer la trentaine. Et donc, du coup, voilà, tout ça, ça ne peut s'aborder, encore une fois, que si on a les termes, que si on a les notions. Et puis après, j'en parle aussi dans le livre, il y a un côté plus symbolique, qui est que bah justement, je sais pas si un jour je pourrais vraiment m'inscrire dans une filiation génétique, si je vais pouvoir retrouver mes parents de naissance. Par contre, l'intérêt des filiations théoriques ou artistiques, Bah, c'est qu'on peut s'inscrire dans des filiations symboliques. Donc effectivement, moi, ça me plaît de me dire, bah, en fait, quand je réfléchis à l'auto-engendrement, à ce que ça veut dire pour moi d'être une femme noire adoptée, mais aussi une cinéaste, et donc quelqu'un, une passeuse d'histoire, etc., bah, là, en fait, je me dis, là, je m'inscris dans une tradition qui est autant la tradition caribéenne de qu'est-ce qu'on se recrée après la perte, après le trauma, après l'absence d'information, etc., une tradition états-unienne, enfin, des traditions, en gros, des diasporas noires. Et donc là, en fait, je me dis, ben, alors, c'est pas vrai, finalement, que j'ai pas de filiation. J'ai peut-être pas de filiation avec des personnes en particulier, mais par contre, moi, je peux me réintégrer dans l'histoire noire. Et donc ça, par exemple, ça m'aide aussi. Il y a plein de choses que, voilà, j'aurais bien aimé entendre quand j'étais plus jeune. On n'est pas obligé d'être d'accord, ou c'est peut-être pas ça qui va fonctionner pour la personne qui va venir, mais juste de voir que on peut, voilà, se créer aussi d'autres formes de filiation. Bah, c'est intéressant, parce qu'il y a plein de gens chez les adoptés qui retrouveront jamais leurs parents de naissance. Donc si on se fixe sur la continuité biographique, on va être forcément frustré, quoi.
Et là, ce qu'on entend beaucoup, en fait, c'est que tu es... J'ai l'impression que, voilà, les questions, évidemment, d'identité et de savoir comment on se situe dans le monde, c'est primordial depuis toujours, en fait, dans tes narrations, dans la façon dont tu t'es construite, etc. Et ça va être une question un peu aparté, mais parce que j'aimerais bien qu'on en parle rapidement avant de continuer sur des autres sujets. J'ai été vraiment très marquée, et c'était dans un vraiment sens très positif, hein, c'est de ton choix de narration au féminin. Donc complètement sans discussion, tu le mets. Alors, j'ai pas prévu ma page, mais tu as une petite phrase au tout début. Dans cet ouvrage, le féminin inclut le masculin et est utilisé sans discrimination et afin d'alléger le texte. Et ça, voilà, point barre, et on passe aux cheveux. Et ce qui fait que, alors, je l'ai déjà dit plusieurs fois, et donc pour ceux qui font plusieurs rencontres, c'est eux qui font plusieurs rencontres, ils doivent être dans une réflexion, mais en ce moment, je suis moi-même dans un féminin complètement hégémonique, c'est-à-dire que dès que je lis des choses, pour moi, c'est féminin. Enfin, j'inclus plus du tout le masculin dans mes narrations, mais ça fait quelque chose de très... c'est très agréable, en fait, je trouve, quand on se questionne sur ses identités, son identité, etc. Et donc, quand j'ai lu ça, en fait, il y avait évidemment quelque chose de l'ordre du réconfort, de me dire, ah, génial, on va juste entre nous. Et donc, quel a été cet engagement, d'où il est venu, et comment on décide, voilà, de changer la donne de la narration jusque-là, en fait.
Alors, en fait, bon, moi, je voulais le faire depuis un petit moment, et je voulais le faire dès mon mémoire, là, à l'UQAM. Et c'est pareil, j'ai finalement renoncé, parce que je me suis dit, bon, déjà, j'écris au jeu, en plus, je suis là, en train de dire la race comme construction sociale, nanana, etc., encore une fois. Et je me suis dit, si en plus, je fais mon truc d'écrire le mémoire au féminin, c'est un peu, enfin, surtout dans un cadre, voilà, académique, il y a un peu jusqu'où je pousse le bouchon pour vraiment qu'on me mette une mauvaise note, juste par principe, parce que je les ai saoulés, quoi. Donc, du coup, j'ai renoncé. Mais, je voulais le faire parce qu'en fait, ça faisait un moment que je me disais, déjà, je l'avais vu dans des mémoires au Québec. Et avec, en plus, avec cette phrase, je m'étais dit, enfin, une phrase qui est très, vraiment, voilà, très proche de ça, où je me disais, mais, en fait, c'est vrai, quoi, c'est une convention de lecture. Si tu l'as dit, tu fais ce que tu veux. Et c'est pour ça qu'au début, je disais, il y a la liberté. Bah, le livre, je fais ce que je veux, en fait. Il y a vraiment un côté de, non seulement c'est moi qui raconte mon histoire, mais en plus, à partir du moment où je vous ai dit que ça, c'est la convention de lecture, eh ben, c'est parti, quoi. On rentre comme ça. Et moi, ce que je trouve génial dans le fait d'utiliser le féminin générique, c'est que c'est vraiment une façon aussi de travailler sur qui est l'universel. Parce que finalement, le langage, c'est un terrain extrêmement politique. Et en fait, on a aussi naturalisé le passage au masculin générique. Mais ça relève de luttes. Il y a un moment donné, autour du voilà 17e, 18e siècle, où il y a des vraies luttes politiques sur cette question de... Avant, c'était l'accord de proximité en français. Et à un moment donné, il y a des masculinistes du langage, mais vraiment, hein, des gars qui écrivent des pamphlets sur pourquoi est-ce que le masculin devrait l'emporter sur le féminin, etc. Donc le tout en expliquant bien sûr que les femmes n'ont pas de rationalité. Et en plus, c'est intéressant parce que à l'époque, c'est vraiment aussi des batailles de classe, quoi. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, en fait, les femmes bourgeoises aristocrates ont beaucoup de pouvoir parce que c'est elles qui tiennent les salons. Et donc, en fait, elles ont un vrai accès à la connaissance, au savoir, et qui est valorisé, puisqu'en fait, les salons ont plus ou moins de popularité, etc. Et donc, c'est parce que les femmes bourgeoises et aristocrates de l'époque ont du pouvoir dans leur champ, par rapport à la culture, que se développe un masculinisme dans le monde, voilà, de l'écriture, de la littérature, etc. Parce qu'il s'agit quand même de les remettre à leur place. Et du coup, on va remettre les femmes bourgeoises et aristocrates à leur place, et toutes les femmes, par la même occasion, en faisant en sorte que la règle de grammaire change et que ce soit le masculin qui l'emporte. Et c'est vrai qu'à partir de là, Ben, c'est particulier. Nous, en tant que femmes et minorités de genre, on se construit dans un monde où le neutre, parce qu'en fait, c'est ça qu'ils appellent le général, le masculin générique, ce qui représente tout le monde, c'est le masculin. Et pourquoi, en fait? C'est quand même particulier. Et en fait, du coup, ben, c'est comme dans les films. Moi, ce que je disais souvent, par exemple, pour ouvrir la voix, je disais, voilà, nous, les minoritaires, on est capable de se représenter l'universel comme étant à l'image de tout le monde. Parce que si moi, je suis pas capable de voir l'universel dans Stallone qui fait Rocky, ou dans tous les mecs blancs qui avaient des rôles de héros, etc., moi, je peux pas apprécier le cinéma. Moi, j'ai appris à aimer le cinéma en étant capable de m'imaginer que je suis la personne qui me ressemble absolument pas, puisqu'il y avait quasiment personne qui me ressemblait. Donc, moi, je veux dire, ma vision du monde, elle est vraiment universelle. Ceux dont la vision du monde n'est pas universelle, c'est ceux qui sont en permanence baignés dans un monde dans lequel, en fait, ce qui est représenté, c'est eux. Donc, en fait, ce sont les mecs blancs, cis, hêtres, qui sont quand même... Bon, ça commence à changer, mais enfin, généralement, le héros de l'histoire. C'est quand même un peu ça qui se passe. Et donc, du coup, je me dis, c'est quand même particulier, parce que dès qu'on lit un texte au féminin générique, bah, déjà, nous, on le remarque. Chose que, en fait, du coup, les hommes cis, ils remarquent même pas que, en fait, tout est écrit pour eux. Qu'ils avancent dans le beurre, comme ça, que le monde qui leur est présenté, c'est un monde où ils sont partout, etc. Alors que nous, dès qu'on est plongé dans le féminin générique, on se dit, oh, ah, mais c'est ça, en fait, d'être toujours centré dans l'histoire. Que quand on parle, en fait, on est tout le temps en train de parler de toi et des personnes qui te ressemblent. Et du coup, c'est même pas genre, nous, ça nous donne l'impression de, on est entre nous. Mais en fait, les hommes cis, ils lisent pas un texte en disant, on est entre nous. C'est juste que, bah, c'est comme ça. Et donc, je me disais, bah, c'est quand même agréable, une fois de temps en temps, de pouvoir s'offrir à soi-même et à la communauté le fait que ce soit nous qui représentions l'universel. Et après, à terme, je veux dire, voilà, on peut réfléchir, il y a aussi l'écriture inclusive, etc. Je veux dire, l'idée aussi, c'est, bah, tu l'as dit avant qu'on reçoive tout le monde, mais qu'on puisse jouer avec la langue. Moi, par exemple, j'adore l'anglais parce que c'est une langue qui est hyper malléable. Déjà aussi, les pays anglo-saxons, on est beaucoup moins sur le fait qu'il faut bien parler, même s'il va y avoir aussi hein, des échelles qui sont mises entre les patois, le parler afro-américain va être aussi vu voilà dans un rapport de classe-race comme étant moins bon. Mais il y a quand même une vraie acceptation du tu parles avec un accent, tu t'inventes des trucs. Si les gens ont compris en face, ça leur va, quoi. Et moi, j'aime bien, je donne toujours cet exemple. Par exemple, il y a, quand tu dis absolutely, tu peux mettre fucking au milieu, quoi. Abso-fucking-lutely. C'est genre, tu peux vraiment créer des interjections nouvelles, des choses comme ça. Et en fait, il y avait aussi cette idée-là de se dire, en fait, la langue, c'est pas quelque chose de figé. C'est pas parce qu'il y a l'Académie française qu'on est tous et toutes obligés de fonctionner comme ça, en fait. Moi, j'ai pas envie. Moi, j'ai envie de m'amuser. Voilà. Peut-être, j'écrirai pas d'autres livres. Au moins, j'en aurais fait un exactement comme ce que j'aurais eu envie de lire depuis longtemps, etc. Et donc, c'est aussi l'idée de se dire, voilà, je suis maîtresse en ma demeure et à partir du moment où j'ai mis la convention de lecture, bah, tu peux la refuser et pas lire. Mais si tu lis, sinon, tu vas être obligé de plonger dans ce monde-là, quoi.
Mais c'est hyper agréable. La plupart du temps. Parce qu'il y a évidemment dans tout le parcours que tu nous racontes, ton parcours, tu as aussi en face de toi des personnes qui ne représentent pas le positif, le bien, le bienveillant. Hein. C'est parfois des gens qui t'empêchent en fait, dans ton cheminement. Et là, et c'est vraiment ressenti. C'est peut-être personnel, mais j'ai hâte d'avoir des retours de lecture à cet endroit-là, d'entendre que les empêcheuses. De se mettre une femme. Il y a eu un moment de moi, à plusieurs reprises, j'étais là, ouais, je suis sûre que c'est un homme en fait. Hein. bon, après, on va commencer à prendre que je suis misandre, pas du tout, mais dans la lecture, il y a. Voilà, en fait, mais c'est génial de se dire, et c'est ce que j'adore en fait dans les narrations actuelles, c'est que de plus en plus, en fait, on nous trouble, on nous met dans un des autres endroits, parce que même si je suis femme, je n'ai, en effet, comme tu l'as bien expliqué, j'avais été habituée en fait à lire des livres qui s'adressaient à des femmes, aux femmes en général, quoi. Quelque chose, et donc, ça recrée un autre endroit de narration qui est hyper enrichissant pour la lectrice que je suis. Encore une fois, au début du livre, tu te positionnes aussi d'un point de vue féministe. Donc déjà là, l'écriture est déjà une bonne façon de mettre la femme au centre, les femmes au centre. Mais tu vas découper ton livre sur certains sujets qui vont apparaître au fur et à mesure de ton histoire aussi biographique. En fait, hein, on suit quand même le cheminement de manière un tout petit peu chronologique, aussi dans ton chemin de pensée. Et tout de suite, on démarre avec ce fait que tu es une adoptée sous-X et de comment, en fait, cet endroit en fait, du sous-X en France est très problématique d'un point de vue aussi féministe. Et j'ai trouvé ça hyper passionnant, parce que c'est vrai que ce que moi j'avais lu pour le moment sur les adoptions, je suis évidemment loin d'être une spécialiste, puisque je ne suis pas concernée directement et je n'avais encore jamais vraiment rencontré en fait, des personnes adoptées, c'est quand même 35 ans, j'ai des temps, de comprendre ces narrations-là aussi, de comprendre ces points de vue. Et, mais ce qui fait que généralement, en fait, j'avais encore jamais lu cet endroit vraiment très très précis et imbriqué du féminisme et de l'adoption sous X. Et ça, est-ce que tu veux bien de ça te partager cette pensée-là avec nous?
Ouais, bien sûr. Bah encore une fois, hein, c'est toujours l'idée que si on s'arrête à un débat théorique, moi je peux pas comprendre ma vie et aussi résoudre des choses qui me posent problème. Et donc c'est vrai que pendant voilà pendant très longtemps et moi-même hein, j'ai souscrit à cette idée, le discours en France autour de la naissance sous le secret, c'est que c'est un droit inaliénable pour les femmes puisque c'est à mettre au même niveau que le droit à la contraception, à l'avortement, et donc les femmes doivent pouvoir se séparer d'un enfant. Et donc si on n'est pas d'accord avec la naissance sous le secret, bah, d'une certaine façon, on est une mauvaise féministe. On devrait être en accord avec la pratique, puisque bah, si je suis pour le droit à l'avortement et à la contraception, pourquoi est-ce que d'un coup, quand c'est moi qui suis née sous X, je suis plus pour la naissance sous le secret? Et donc c'est vrai que bah, moi, ça me posait problème, parce que ça fait jamais plaisir de se dire qu'on est une mauvaise féministe. J'en parle dans le livre, on dit « Ah non, voilà, j'ai bu du coca, je sais pas, il y a toujours ce truc de genre « Oh là là, je suis pas en accord total avec tous mes idéaux ». Mais surtout, il y avait quelque chose qui me gênait dans la proposition. Il m'a fallu des années vraiment pour comprendre qu'est-ce qui me gênait dans la proposition, de pourquoi est-ce que ce serait forcément féministe qui est l'accouchement sous le secret. Et donc, c'est vrai que, et en fait, l'accouchement sous le secret mêlé à l'accouchement anonyme. Et donc, c'est pour ça aussi que dans le livre, je fais vraiment la généalogie de la loi actuelle, parce qu'en fait, il faut juste, enfin, c'est toujours la même chose, il faut remonter le fil pour comprendre, en fait, pourquoi certaines narrations ne sont pas à l'image de la réalité de la pratique ou à l'histoire de la pratique, et pourquoi, effectivement, bah, à un moment donné, on ne peut pas opposer droit des femmes et droit des enfants en permanence. Et donc, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi ça, c'est de se dire quelle est la place des enfants dans la société, et en particulier parce que les enfants deviennent des adultes. Et donc, moi, ce que j'ai commencé à répondre au bout d'un moment, quand je disais, oui, il faut rendre plus complexe la réflexion sur la naissance sous le secret, c'est que quand il y avait des personnes qui me disaient, oui, mais voilà, c'est les droits des femmes, etc., je disais, mais moi aussi, je suis une femme. Maintenant, je suis une femme. Donc, pourquoi est-ce que les droits de la femme qui est ma mère de naissance sont plus importants que mes droits de femme à moi? Si on est dans le débat théorique pur et dur, ça ne va nulle part, en fait. Donc du coup, est-ce qu'on peut essayer de réfléchir à quelque chose qui fonctionnerait pour tout le monde? Et donc du coup, moi, ce qui m'a intéressé, ça a été d'abord de voir, effectivement, c'est quoi la naissance sous le secret? Donc la naissance sous X en France, ça mêle deux choses. La version contemporaine, donc celle qui émerge avec la loi de 1941, et donc 1941, c'est sous le régime de Pétain, c'est une pratique qui mélange accouchement sous le secret, donc possibilité d'aller se mettre à l'abri pendant son temps de grossesse et d'accoucher sans que les gens de votre entourage soient au courant, à la naissance anonyme, c'est-à-dire à la rupture totale des liens de filiation entre la personne qui s'est séparée de l'enfant et l'enfant. Alors qu'avant 1941, à partir de la Troisième République, existe la naissance sous le secret en France, mais sans rupture des liens de filiation. L'objectif de l'époque, c'est effectivement de lutter contre les abandons, les infanticides, et donc de permettre aux femmes qui sont enceintes hors mariage de s'abriter de l'opprobre public, du jugement de leur famille, etc., pendant leur temps de grossesse, de pouvoir se séparer d'un enfant. En sachant que justement aussi leur situation peut évoluer et que si elles sont enceintes dans un cadre qui en fait n'est pas un cadre de violence, parce que tout le monde se sépare pas d'un enfant pour les mêmes raisons. La raison principale à laquelle tout le monde pense, c'est le viol, mais en fait vous pouvez avoir une aventure extra-conjugale, vous pouvez être avec une personne qui elle est mariée et pas vous, vous pouvez, enfin il y a plusieurs cas de figure dans lesquels vous pouvez être jeune, etc. Et du coup quand ces personnes se séparaient de leurs enfants, il arrivait aussi qu'à un moment donné, elles les récupèrent. Parce qu'elles étaient mariées et que si leur mari était OK pour récupérer l'enfant qu'elles avaient eu hors mariage, bah, elles pouvaient le récupérer. Parce que, pour diverses raisons, elles étaient très précaires à un moment donné, puis elles l'étaient plus. Elles étaient mineures à un moment donné, et puis après, elles l'étaient plus, etc. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est une pratique qui donnait vraiment de la gentilité, donc capacité à agir sur soi et sur le monde, aux femmes qui voulaient se séparer de leurs enfants. Ou aux femmes qui, à un moment donné, ne pouvaient pas assumer une grossesse publiquement. Voilà, ce qui est déjà pas la même chose en fait. Ne pas vouloir assumer la grossesse publiquement, ne pas pouvoir s'occuper d'un enfant à un instant T, ça veut pas forcément dire s'en séparer à tout jamais. Donc ça c'est aussi une chose, je pense, qui est important de rappeler, parce que justement, ce qui se passe avec la loi d'aujourd'hui aussi, c'est qu'il n'y a pas de possibilité pour ces personnes de revenir en arrière. C'est-à-dire que vous avez 3 mois pour changer d'avis après l'accouchement, si vous n'avez pas changé d'avis, l'enfant est adoptable, en adoption plénière, et c'est fini, quoi. Donc, si vous changez d'avis 3 ans plus tard, bah, c'est trop tard, quoi. Ou si vous êtes curieuse, peut-être que vous voulez toujours pas vous en occuper, mais peut-être que vous vouliez pas la rupture totale des liens de filiation. Et donc, ce qui est intéressant, c'est quand est-ce que l'accouchement sous le secret est lié à l'accouchement anonyme, et même sous quelles conditions? Parce qu'en fait, sous Pétain, l'accouchement anonyme devient obligatoire pour les femmes qui veulent accoucher sous le secret. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a plus de possibilité de maintenir les liens de filiation antérieurs. Et il est tellement obligatoire de les lier que si une femme a pu bénéficier donc de l'accueil dans une maison voilà familiale, un endroit où elle a pu se cacher pour sa grossesse ou un hôpital, si elle veut se récupérer son enfant après l'accouchement, elle va devoir payer les frais qui lui ont été avancés par l'État pour ses soins pendant sa grossesse. Et ça, c'est d'autant plus intéressant de le regarder par rapport à l'histoire de l'accouchement sous X en France, parce qu'en fait, c'est une pratique qui perdure dans les pays du Sud. Très souvent, les femmes qui se séparent de leurs enfants dans les pays du Sud ou dans les pays de l'Est, bah, généralement, à un moment donné, donc, encore une fois, grossesse non désirée, surtout si c'est une personne mineure, c'est la famille qui va l'emmener dans un organisme où, effectivement, c'est à la fois accueil de femmes enceintes, orphelinat, etc., ou lieu de départ pour l'adoption internationale. Et en fait, très souvent, la condition dans ces lieux d'accueil, c'est de se séparer de l'enfant à la naissance. Et si on refuse de se séparer de l'enfant à la naissance dans ces pays-là, bah effectivement, on se voit à nouveau présenter la facture pour pouvoir le récupérer. Et donc, du coup, là, je me suis dit, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un choix féministe quand, en fait, là, les conditions de la séparation, elles sont quand même largement imposées par l'État. Et c'est quand même intéressant que la version contemporaine qui mêle donc accouchement sous le secret et accouchement anonyme, bah, ça se fasse sous Pétain, qui est un régime familialiste, un régime où, en fait, l'objectif, effectivement, entre autres, bah, c'est de rendre des enfants adoptables. En particulier en période d'occupation par les Allemands, où il y a énormément d'enfants illégitimes, etc. Et où l'idée, c'est de se dire, bon, bah, de toute façon, ces enfants ne sont pas perdus pour la patrie, parce que quand vous naissez sous le secret, votre premier tuteur légal, c'est l'État français. Donc, vous êtes une pupille de l'État, on va vous trouver une famille française, etc. Ou au pire, vous grandirez dans un orphelinat, mais ça fait aussi des gens en plus, quoi. Il y a tout un enjeu démographique, une politique familialiste, nataliste. Bah, en fait, c'est une politique où, justement, on considère que l'adoption, c'est un moyen de lutter contre l'avortement. Et donc, en fait, c'est une politique antiféministe, la naissance sous le secret telle qu'elle existe aujourd'hui, à la base. C'est une façon, et d'ailleurs, on le montre dans Une histoire à soi, avec la première archive qui ouvre le film, et c'est une vidéo promotionnelle pour une œuvre d'adoption qui s'appelait La Fondation de Gueville. Et c'est une vidéo promotionnelle voilà, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que la Fondation de Gueville, c'était une fondation, voilà, parce qu'on est avant l'accès pour les femmes à la contraception, à l'avortement. Et donc, la Fondation de Gueville, entre voilà, la Deuxième Guerre mondiale et puis les années 60-70, permet aux filles de bonne famille, donc de familles aristocrates et bourgeoises, mais grande bourgeoisie française, d'accoucher discrètement dans sa fondation parisienne. Et ce qui permet ensuite de faire adopter les enfants illégitimes, mais de bonne famille, au sein de familles de la bourgeoisie, de la grande bourgeoisie et de l'aristocratie française aussi. Donc, par exemple, les Pompidou ont adopté à la Fondation de Gueville, etc. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans leur vidéo promotionnelle, ils le disent texto. Ils disent « la Fondation de Gueville est là pour lutter contre l'avortement, etc. » dans la charge qui lui a été donnée par l'État de lutter contre l'avortement. Et c'est hyper intéressant parce que si on s'intéresse à cette histoire-là, on se rend compte qu'aujourd'hui, les groupes catholiques extrémistes des États-Unis et puis ceux aussi qui ont fait pression au niveau européen contre le mariage pour tous, etc., parce que la manif pour tous, ça n'a pas poussé comme un champignon, en fait. Il y a aussi des fonds qui arrivent des États-Unis au niveau européen pour arroser. Je donne la référence, il y a le livre de Sara Garbagnoli, dont j'ai oublié le titre, mais qui est là tout de suite maintenant, mais c'est la croisade anti-genre, et qui est vraiment une étude sur comment, en fait, depuis les États-Unis, arrive tout un discours États-Unis-Vatican sur comment lutter contre la théorie du genre, etc., et avec des financements, et vraiment avec la mise en place de mots-clés, etc. Et donc, du coup, bah, ces discours-là, aujourd'hui, sont complètement de retour. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, C8 a montré un film qui s'appelait Unplanned, donc un film contre le planning familial, un film états-unien contre le planning familial, contre la contraception, contre l'avortement. Et une des lignes narratives du film, c'est de dire que les femmes n'ont pas besoin d'avorter ou de prendre la contraception, puisque si vraiment elles veulent pas un enfant, elles peuvent s'en séparer pour l'adoption. Et donc c'est pour ça que je dis, voilà, c'est intéressant de voir les continuums, c'est intéressant de voir les liens, parce que du coup on se rend compte qu'effectivement, une pratique qu'on a présentée comme féministe, parce qu'effectivement elle permet à un moment donné à des personnes qui ont des grossesses non désirées de séparer d'un enfant, en fait ce qui la motive, et ce qui l'encadre, c'est absolument pas des pratiques féministes ou des personnes féministes. C'est pas du tout ça qui se passe. Et du coup, l'enjeu, c'est qu'une façon de voir aussi que c'est pas une pratique féministe, c'est de voir comment sont traitées les mères de naissance. Aucun accompagnement en France n'est proposé aux mères de naissance. C'est-à-dire que elles sont suivies pendant la grossesse et puis quand elles viennent de se séparer de l'enfant, un peu, et ensuite il n'y a plus rien. Or, aujourd'hui, je veux dire, moi je le dis tout le temps, rien n'a été fait pour banaliser le fait de se séparer d'un enfant dans l'espace public. Vous pouvez dire aujourd'hui que vous prenez une contraception, vous pouvez être mère célibataire, vous pouvez dire que vous avez avorté même, mais qui osera dire « moi je me suis séparée d'un enfant il y a 20 ans ». Donc je veux dire, même nous en tant que féministes, quel travail on a fait pour banaliser ce geste ? C'est faux de dire que c'est féministe, parce qu'on n'est pas en solidarité avec les femmes qui se séparent de leurs enfants. Et on n'est tellement pas en solidarité que près de 70 ans après que cette loi a été mise en place, on a milité pour rien du tout, pour qu'elles reçoivent effectivement accompagnement psychologique, tout ce dont elles pourraient avoir besoin. Mais même qu'on aille faire des études sur elles, qu'on leur demande ce qui se passe, si elles vont bien, si elles auraient aimé qu'il y ait des possibilités de médiation, même par exemple pour pouvoir le dire à leur famille. Moi je me dis, mais vous imaginez ces personnes qui traversent une vie en devant mentir à tout le monde autour d'elles, et elles savent qu'elles se sont séparées d'un enfant, et presque personne, ou une ou deux personnes le savent, etc. Moi, je peux même pas imaginer la charge de ce secret, juste ça, en fait. Qui peut se porter ça toute la vie, en fait? Et ça n'a jamais intéressé personne. Donc même moi, j'y vois voilà, une forme d'hypocrisie, parce que finalement, ce qui était utile, c'est que des femmes se séparent de leurs enfants pour que tous les gens qui sont en attente d'adoption puissent avoir accès à des bébés. Mais au fond, ces femmes-là, personne ne s'y intéresse, et on s'y intéresse tellement pas que quand la loi sur la naissance sous X a été modifiée en 2002, c'est le moment où a été créé le CNAOP, donc c'est le Conseil National d'Accès aux Origines Personnelles. Et donc c'est l'institution qui a été mise en place après les revendications des personnes adoptées nées sous le secret qui ont commencé à militer dans les années 70 ou 80 en disant que nous on faisait face à un déni de droit puisqu'on était le seul groupe en France, les adoptés, à ni avoir accès à nos origines biographiques ni avoir accès à nos antécédents médicaux et que ça nous portait préjudice parce qu'effectivement bah, par exemple ne serait-ce qu'en termes de soins de santé on n'était pas égaux vis-à-vis du reste de la population et c'est ça qui a permis vraiment, ça a été la ligne du déni de droit qui a permis de faire modifier la loi en disant la loi doit être la même pour tous et toutes et elle n'est pas la même pour les adoptés. Et donc, la loi a été modifiée, mais en même temps, l'État avait promis l'anonymat à tout jamais pour les mères de naissance qui avaient accouché sous le secret. Donc maintenant, ils ne pouvaient plus d'un coup dire « bah non, il n'y a plus d'anonymat ». Donc le CNAOP a été créé et le rôle du CNAOP, c'est d'agir, on va dire, comme médiateur, médiatrice entre les personnes qui cherchent leurs parents de naissance et les parents de naissance. Dans l'idée de se dire on va pas intégralement rompre l'anonymat, donc on va rechercher les parents de naissance, mais quand on les retrouve, ben on leur demande leur consentement si elles acceptent d'être rencontrées, de donner des informations, etc. Mais de toute façon, c'est une perturbation qui n'avait pas été prévue pour ces femmes-là. C'est-à-dire qu'elles, elles étaient parties du principe qu'elles seraient jamais retrouvées, qu'on saurait jamais rien, et à un moment donné de leur vie, elles commencent à recevoir des lettres du CNAOP. Hein, le CNAOP envoie une première lettre, ils attendent, ils envoient une autre lettre, etc. Mais quand même, quoi. Je veux dire, c'est intrusif. Et puis, si elles répondent pas aux lettres, au bout d'un moment, on les appelle au téléphone. Enfin, bon. Donc, du coup, je veux dire, c'est sûr qu'il y a une charge, un stress qui arrive dans la vie de ces femmes, là, depuis 2002. Parce que, en plus, bah, on est de plus en plus nombreux et nombreuses à demander l'ouverture de notre dossier, puisqu'en fait, puisque c'est un droit qui nous a été donné, bah, on l'exerce. Et là aussi se pose la question. Parce que l'État ne veut pas prendre ses responsabilités, la charge et la culpabilité, elle est sur mes épaules. C'est moi, en tant qu'individu, qui doit décider que mon droit aux origines biographiques et aux antécédents médicaux est plus important que le droit de ma mère de naissance au calme. Et en fait, moi, ça me fait pas plaisir, justement, en tant que personne, et puis en tant que féministe, qu'afroféministe, d'aller perturber la vie de quelqu'un qui, manifestement, n'a pas envie de donner d'informations. Mais moi, je suis quand même curieuse. Je suis désolée, moi, c'est ma vie. Oui, on se retrouve dans cette espèce de paradoxe où moi, j'ai pas forcément envie de perturber la vie de quelqu'un. Mais enfin, j'aimerais bien savoir d'où je viens, etc., quelle est l'histoire de ma naissance. Et puis même, moi, je sais que ma mère de naissance a eu d'autres enfants. Mais peut-être que eux et elles, ils aimeraient me connaître aussi. Je veux dire, est-ce que c'est aussi normal que tout le pouvoir soit de son côté? Moi, je comprends qu'elle n'ait pas envie de raconter, mais en fait, ses enfants, ils sont de ma génération, ils sont plus jeunes. Peut-être que ça les dérangerait beaucoup moins que ce qu'elle, elle imagine. On ne le sait pas, mais quoi qu'il arrive, rien ne lui est proposé à elle. Pas d'accompagnement psychosocial, pas de médiation possible dans sa famille pour pouvoir raconter ce secret, expliquer qu'en fait, si elle l'a pas dit, bah, c'est pas qu'elle voulait mentir à ses enfants, mais c'est juste que c'est quelque chose qui est tellement indicible qu'elle l'a pas raconté. Parce que vous comprenez bien que 30 ans plus tard, dire à vos enfants, je vous ai caché ma grossesse et en fait, il y a eu un autre enfant avant vous, etc., bah, qu'est-ce que ça crée dans la famille? Vos enfants, ils se disent, bah, si tu m'as menti pour ça, peut-être que tu m'as menti pour tout le reste de notre vie, etc. Donc ça, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Il devrait y avoir toute une médiation. C'est pas juste le CNAOP qu'il fallait construire. S'il s'agissait aussi d'avoir un peu de soucis pour ces femmes-là. Et ça n'a pas été fait. Donc voilà, pour moi, c'est hyper important d'en parler. Et d'ailleurs, je pense que c'est vraiment important d'en parler parce que l'autre soir, il y a 2 jours, là, j'étais à Toulouse, donc pour rencontre en librairie et montrer le film. Et il y a une personne qui est venue me voir à la toute fin et qui m'a dit, bah, moi, en fait, ma mère, elle s'est séparée de 2 enfants, je crois, quand elle était plus jeune, poussée par sa famille, etc. Je vois qu'elle aimerait faire quelque chose, mais elle arrive à peine à en parler. Je me demandais, est-ce qu'il y a des associations, etc. Et je me dis, bah, c'est ça l'enjeu. C'est qu'en plus, du coup, il y a quand même aussi des mères de naissance qui en parlent à leurs enfants, qui en parlent à leur famille, etc. Mais personne ne sait quoi faire. Personne ne sait où aller. Moi, je lui dis, écoutez, je sais qu'il y a une association qui s'appelle les Mères de l'Ombre, mais je sais même pas à quel point elle est active aujourd'hui. Je lui dis, mais par contre, moi, je vous recommande d'aller à la maison de l'adoption, quoi, de votre département, et de leur dire, voilà, ma mère s'est séparée d'enfant, elle va pas très bien. Est-ce que vous avez des psys spécialisés sur le sujet? Est-ce que vous avez des groupes de parole? Je lui dis, en fait, si nous, on retourne pas voir les institutions, si on ne crée pas le climat pour que les mères de naissance qui, même si elles veulent pas retrouver leurs enfants de naissance, mais qu'elles puissent recevoir de l'aide, quoi, pour qu'elles puissent effectivement faire face à ce choix dans le calme, etc. Si nous aujourd'hui on fait pas ce travail-là, ça va pas avancer. Et c'est d'autant plus, on va dire, pernicieux qu'aujourd'hui il y a les tests ADN commerciaux qui sont en train d'arriver sur le marché. Donc on continue, même s'il y a que 6 à 700 naissances sous le secret par an en France, on continue à promettre l'anonymat à des personnes encore aujourd'hui, alors qu'en fait dans 15-20 ans c'est fini. L'équivalent de la naissance sous le secret aux États-Unis, on considère que c'est terminé parce qu'il y a tellement de gens qui sont testés dans les banques ADN qu'en fait tout le monde retrouve. Tout le monde retrouve ses frères, ses sœurs. Et là, c'est encore pire parce qu'il n'y a pas de médiation du CNAOP. Donc vous vous testez, vous trouvez un frère ou une sœur, vous allez les voir en disant, ah ben voilà, ça veut dire que ta mère, elle s'est séparée d'un enfant il y a 25 ans et c'est moi, etc. Vous imaginez le degré de catastrophe que ça va être, ça, d'ici quelques années, quand les gens vont pouvoir faire ça. Donc voilà, moi je trouve que là, il y a vraiment une responsabilité des pouvoirs publics et une méconnaissance de ce que ça veut dire dans les faits. Et donc encore une fois, je suis obligée de tout déplier pour qu'on comprenne que non, c'est pas si féministe que ça, en tout cas dans la forme actuelle, la naissance sous le secret, l'accouchement anonyme. Et en plus, si on est vraiment féministe, il serait vraiment temps de se mobiliser pour les mères de naissance qui se sont séparées de leurs enfants là depuis les 70 dernières années. Il y en a plein qui sont aussi décédés depuis, mais il y en a plein encore aujourd'hui, et elles peuvent même pas parler, quoi. Elles peuvent même pas le raconter, en fait.
Donc là, on a eu tout le côté de pensée, de transmission, mais c'est vrai que nous, dans le livre, en fait, on vit tout ça en même temps, de ta découverte, de tes pas à pas, en fait, dans les révélations, dans les levées de secrets de certaines informations choisies, parce que ça, c'est quand même aussi quelque chose d'assez, qui doit être très difficile à gérer avec calme, c'est de se dire que l'État français a des informations qui sont cachées en fait de toi pendant longtemps, puisque tu as eu droit à ouvrir ton dossier à 18 ans, et qu'ensuite tu as dû avoir accès à ce fameux service pour essayer de rentrer en contact avec ta mère, pour avoir des informations sur tes antécédents médicaux. Et donc d'une certaine manière, en fait, tu n'étais pas impliquée dans le discours, enfin dans toute la réponse que tu m'as donnée. Mais en fait, ton exemple est complètement, montre bien en fait cette impensée, ou qui n'est même pas un impensée en fait, ce non-traitement de ces informations-là d'un point de vue gouvernemental, alors que en fait, on voit bien qu'il y a des espaces de vide qui doivent être comblés avec grande urgence, comme tu l'expliquais. Si je peux me permettre d'aller plus dans ton intime là, pour le coup, quand on lit ton livre, en fait, on est vraiment assez bouleversé en fait par tes étapes de découverte, et parce que oui, tu prends le temps de nous expliquer vraiment comment tout ça est arrivé, les pas à pas. Et ce moment, en fait, où tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui parle avec ta mère, ça a dû être... j'ose même pas imaginer l'endroit et de soulagement, et de... parce qu'elle est là, elle est quelque part, et quelque chose d'un alignement, de se dire, en fait, ça y est, il y a un endroit où je suis reliée, même si c'est une personne étrangère, que voilà, avec mon histoire passée. Ça a dû être assez... Enfin, je ne sais pas si on peut imaginer...
Ouais, je sais pas. Moi, par exemple, le fait qu'il y ait le CNAOP qui fasse la médiation, pour moi, c'est plutôt agaçant, en fait. Ouais. C'est-à-dire que, encore une fois, je me retrouve dans une situation où... Alors, je sais que ma mère de naissance est vivante. J'ai plus d'infos que j'en avais pas avant 2019. Mais ça reste aussi une situation qui est hyper... c'est hyper étrange, en fait. Parce que du coup, il y a, encore une fois, une inconnue qui est quand même l'incarnation de l'État, parce que voilà, c'est des fonctionnaires, les gens du CNAOP, qui connaît en fait toute mon histoire, qui connaît le nom et l'adresse de ma mère de naissance, etc. Et moi, je peux pas le connaître. Donc je veux dire, il y a quand même toujours ce rapport qui nous place dans une posture infantilisante en fait. Je suis une adulte, je suis censée avoir tous mes droits civiques, etc. parce que j'ai passé 18 ans. Et en fait, j'ai 37 ans, je peux toujours pas savoir qui va avoir naissance quand Madame X avec qui je parle, etc. elle a toutes les infos quoi. Donc je veux dire, c'est paradoxal. Même, je veux dire, vous retrouvez dans le bureau avec cette personne-là. Enfin, moi, je me suis dit, voilà, si elle m'avait reçu avec le dossier sur la table, j'aurais pris, quoi. Je veux dire, il y a vraiment ce truc de dire, je pars avec et je pars en courant, parce qu'en fait, je me dis, mais pourquoi, en fait? Pourquoi est-ce que moi, je pourrais pas savoir? Aussi, il y a même un truc, ouais, d'autant plus infantilisant que, moi, par exemple, j'ai pas de fantasme particulier de je vais retrouver ma mère de naissance. Moi, je suis même plutôt dans un truc de me dire, on vient tellement pas des mêmes cultures. Moi, je sais que ma mère de naissance est une femme musulmane pratiquante qui est arrivée en France donc assez tard, à plus de 25 ans, qui s'est quand même construit une bonne vie, mais genre, on n'appartient même pas aux mêmes classes sociales. Bon, je sais que ça va être particulier, quoi. Et on se connaît pas. Enfin, c'est une rencontre avec comme n'importe quelle personne inconnue. Ça se trouve, on va pas se plaire. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc, j'ai pas un gros fantasme, par exemple, sur elle. J'ai des questions, etc. Et justement, je me dis même, c'est aussi une forme de respect vis-à-vis de ces personnes-là. C'est une adulte, quoi. Moi, ma mère de naissance, maintenant, elle a quelque part 63, 64 ans. Je veux dire, on peut pas avoir toutes les deux le droit de s'asseoir à une table et de se parler comme à des adultes. Je veux dire, c'est quand même particulier qu'à un moment donné, on considère qu'il y a besoin de médiation. Toutes les personnes adoptées sont pas au même endroit dans leur vie. Toutes les personnes adoptées sont pas, voilà, dans la même stabilité, recherchent pas la même chose. Il y a des gens qui voudraient vraiment créer un lien avec leur famille de naissance, etc. Mais je veux dire, on devrait pouvoir s'adapter, justement, aux différents profils. Ce que je voudrais, c'est ça. Moi, je voudrais une rencontre au café où on se dit des choses et puis c'est fait. Puis si on se plaît, peut-être on va développer un rapport. Et puis si on se plaît pas, c'est pas grave. Moi, j'ai passé 37 ans sans connaître cette femme. Je veux dire, c'est pas comme si j'avais un vide dans ma vie, que c'était ma meilleure amie du collège, on s'est plus vu. Je dis pas ça parce qu'en fait j'ai revu ma meilleure amie du collège il y a pas très longtemps en écrivant le livre. À un moment donné, je me suis dit que j'avais vraiment déconné et tout, donc je lui ai écrit une lettre et puis on s'est vu là. Et ça, c'est quelqu'un, je me suis dit, voilà, elle m'a manqué. Elle m'a vraiment manqué, j'étais vraiment contente de la retrouver et tout. Je me dis, ma mère de naissance, je sais pas, est-ce que quelqu'un que vous connaissez pas peut vous avoir manqué? Est-ce que bon, donc je sais pas ce qui se passerait. Mais ça m'agace. Donc en fait, moi, le rôle du CNOB dans ma vie, c'est cette espèce d'histoire qui n'en finit jamais, où je deviens jamais adulte, quoi. C'est-à-dire que d'abord, il y a la DAS quand j'ai 18 ans, où en fait, je peux aller voir mon dossier, mais je peux pas prendre l'original de mon dossier, je dois prendre la copie. Et puis, je fais la demande d'ouverture au CNAOP de mon dossier en 2016. Déjà, je suis recontactée en 2019. Donc ça aussi, les temporalités sont jamais celles qui vous vont. Moi, j'ai en 2016, j'étais plutôt au Cannes, j'étais à Montréal et tout. 2019, on était en train de tourner le film. Moi, on venait de faire déjà, je pense, 25 entretiens avec des personnes adoptées. Donc, j'étais en saturation totale de réception d'informations. Et là, le CNAOP me recontacte en me disant, ah, on a peut-être retrouvé votre mère de naissance. Moi, genre, oui, c'est pas le moment. Donc voilà, il y a aussi tout ce truc-là de, ça se fait jamais à votre rythme. C'est jamais quand moi je veux. C'est jamais ce que moi je veux. Et en plus, bah, du coup, même sur cette séquence retrouvaille, c'est quand même pas moi qui ai la main, quoi. C'est ma mère de naissance et c'est la personne du CNOB. Donc moi, je suis toujours à la posture de l'enfant qui n'a pas de droit. Et j'ai 37 ans. Ça m'est extrêmement déplaisant. Donc du coup, voilà, c'est plutôt ça qui se passe. Donc, par exemple, j'aurais plus d'investissement émotionnel, moi, sur mes frères et sœurs. Voilà. Moi, j'aimerais bien rencontrer mes frères et sœurs. Moi, je pense qu'ils ont le droit de savoir. Et c'est aussi pour ça que je suis très intéressée aussi sur la place des enfants. Ce qu'on se représente, que sont les enfants, ce qu'ils peuvent entendre, pas entendre, etc. Est-ce que c'est à ma mère de naissance de décider que ses enfants peuvent pas savoir qu'elle a eu un autre enfant avant? Mon avis à moi, c'est que non, en fait. Elle a fait son choix pour elle, il est tout à fait légitime. Mais en fait, peut-être qu'eux et elle, ils aimeraient me connaître. Puis moi, je me dis, peut-être qu'on a plus de trucs en commun avec mes frères et sœurs que j'en ai pas avec ma mère de naissance. Et ça aussi, bon, je le sais parce que j'ai quand même pas mal d'amis adoptés qui ont retrouvé leur famille de naissance. Et bon, c'est quand même généralement compliqué avec les parents de naissance. Déjà, très souvent, les mères de naissance ne veulent jamais raconter ce qui s'est passé. Moi, j'ai une amie, ça fait 30 ans maintenant qu'elle est à nouveau en contact avec sa mère de naissance. Ça fait 30 ans que sa mère de naissance ne peut pas lui dire qu'il y a son père de naissance. Il y a eu un moment donné, elle ne pas parlé pendant 10 ans. Parce qu'en fait, pour elle, c'était trop, quoi. Elle disait, enfin, je te demande un truc, je veux un nom, et en fait, tu veux pas me donner l'information. J'en ai une autre, sa mère de naissance l'a forcée pendant des années, en fait, l'a présentée à toute la famille, mais comme une cousine. Donc elle, pour pouvoir fréquenter sa mère de naissance, elle a dû accepter de rester un secret. Moi, ça, par exemple, j'aurais refusé d'entrer de jeu, quoi. Donc, du coup, voilà, je pense qu'il y a vraiment tout ce truc de même savoir que toutes ces options existent, quoi. Que ça peut arriver aussi. Là, l'autre soir, il y avait une personne qui m'a dit, ouais, dans le film, il n'y a pas l'occurrence où on retrouve sa famille de naissance. et ça se passe mal, ou on se sent exploité parce qu'on nous demande de l'argent, etc. Et je disais, bah, bon, nous, on a aussi essayé de tisser une narration avec des histoires qui peuvent se répondre, et on n'a pas eu de personne qui est venue avec cette histoire-là dans le groupe final qui avait assez d'archives, etc. Mais ça aussi, ça existe. Vous savez pas sur qui vous allez tomber. L'adoption, c'est aussi une question de rapport de classe, et en particulier l'adoption internationale. Donc, vous avez aussi des chances d'arriver dans un contexte où vous avez beaucoup plus d'argent que les membres de votre famille de naissance. Comment est-ce que vous allez gérer ça? Enfin, je veux dire, tous ces enjeux-là. Donc, c'est pour ça aussi que j'en parle quand même dans le livre sur le fait que même si on pense qu'on cherche quelque chose quand on cherche sa famille de naissance, déjà, souvent, quand ça se présente, on se rend compte qu'on n'avait pas du tout pensé à l'ensemble des problèmes qui pouvaient se poser avec l'arrivée de cette nouvelle famille, si tant est qu'on les retrouve ou pas. Ou il y a aussi le fait de se dire, je me lance dans une démarche, ça pourrait ne pas aboutir. Et qu'il faut être prête, en fait, au moment où on s'engage dans la démarche de la recherche, que ça puisse ne pas aboutir. Parce que si on y croit vraiment trop, etc., qu'est-ce qu'on fait quand ça n'aboutit pas? Ou quand ça s'arrête? Moi, c'est clair, là, ça va faire 2 ans qu'il y a le CNOP qui fait la médiation, là, ma mère de naissance a arrêté de répondre. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ça? Donc, je suis arrivée à un certain point de la recherche, et maintenant, j'ai à nouveau, effectivement, intégralement reperdu la main. Ce truc-là aussi de se dire, est-ce que je suis prête à, effectivement, par exemple, qu'il n'y ait pas de réciprocité du don? Ma mère de naissance a demandé des photos de moi, etc. Donc, moi, j'ai demandé des photos, elle ne me les a pas envoyées. Ça m'a pas plu. Je ne suis pas contente. Parce que je me dis, bah, en fait, non, quoi, ça peut pas être tout le temps un truc asymétrique. Et donc, la façon dont la pratique est structurée, ben, c'est une pratique qui est quand même extrêmement défavorable aux droits des personnes adoptées et qui, voilà, de mon point de vue, est très désagréable quand vous êtes adulte de vous retrouver tout le temps dans cette position où vous n'avez, voilà, là pour le coup, aucune agentivité.
C'est passionnant. Ce livre, il est tellement à différents endroits, en fait, de cette structure de ce qu'est être un être humain, de ce qu'est l'identité, en fait, qu'on se rend compte des liens et de comment, en fait, la façon dont on est traité en tant qu'enfant évidemment faire l'adulte qu'on est derrière, mais comment on reprend la main de son histoire quand on a passé un certain nombre d'années à ce qu'on lui ait enlevé, en fait, cette histoire, à ce manque d'agentivité, évidemment, quand le gouvernement prend cette place là aussi, d'enlever, en fait, les facultés d'être, etc. C'est vraiment un livre qui est copieux, et c'est toujours dans le très bon sens, parce qu'on adore quand il y a de l'archive, quand il y a des choses qui viennent accompagner les raisonnements et qui permettent, en fait, à toutes les personnes concernées ou non concernées de pouvoir entrer dans la bataille avec toi, en fait, et de lire ce que tu proposes, de lire les autres références et d'accompagner le bagage, en fait, et de dire, bah, nous aussi, on va transmettre cette histoire-là et ça va arrêter d'être un impensé en France, en fait, parce que c'est surtout ça. C'est un impensé qui a trop duré en France. Il est temps que... Oui, il est temps qu'on s'énerve, en fait. évidemment, il y a plein d'autres endroits que j'ai vraiment envie de discuter, mais je pense qu'il y a une salle qui a très envie de poser aussi ces questions. Et notamment, j'ai trouvé, juste pour le teasing, c'est un petit teasing de lecture, j'ai adoré l'endroit de faire famille, toute la pensée autour du faire famille qui est hyper nécessaire, je trouve, aujourd'hui, en fait, où on parle GPA, PMA, de comment, en fait, il y a aussi une grosse hypocrisie à cet endroit-là, en fait, de dire, bah, tout d'un coup, on se pose des questions sur le faire famille, alors que depuis longtemps, on se le crée et on l'achète, ce que pourrait être faire famille. Enfin, c'était vraiment un endroit qui m'a beaucoup questionné, j'ai eu vraiment un bon temps de lecture pour bien sentir tes paroles à cet endroit. Donc, merci beaucoup pour cet essai, ce récit, cette narration autre, hein, parce que c'est quand même un bon croisement. Et hâte, en fait, de découvrir toutes les prochaines étapes de création.
Parce que bon, la prochaine étape, c'est les vacances, hein, surtout. Mais
oui, non, mais c'est pas pressé, mais... on peut s'assembler, ça s'appelle l'année prochaine, en 2 ans.
Voilà. Merci beaucoup.
Merci.
Alors, heureuse? Vous venez d'écouter un épisode de l'Affranchie Podcast en compagnie d'Amandine Gay à l'occasion de la parution de son ouvrage « Une poupée en chocolat » aux éditions de La Découverte. L'Affranchie Podcast, c'est Soazic Courbet à la réalisation et Camille Cario à la post-production et au montage. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes. Avec l'Affranchie Podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional unprofessionals, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.